Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions encore parce que tu veux nous aider à grandir, Seigneur, dans ta connaissance. Tu veux nous aider, Seigneur, à te connaître. Tu veux nous aider, Seigneur, à te servir. Nous avons besoin, Seigneur, pour cela, vraiment de connaître ta volonté, connaître davantage ta parole, Seigneur. Et nous te remercions d'avoir suscité des frères qui peuvent nous enseigner. Seigneur, veuille bénir Daniel pour ce partage qu'il nous apporte. Bénir ta parole, Seigneur, qu'il puisse être vraiment ancré dans nos vies, Seigneur, dans nos cœurs, que nous puissions non seulement écouter, mais aussi mettre en pratique, afin de te rendre la gloire qui t'est due. Oui, merci, Seigneur, encore pour ce moment béni. Amen.
Excusez la position qui n'est pas habituelle, qui n'est pas très confortable pour celui qui est là non plus. C'est les restes du mariage d'hier, hein, simplement. Je pense que les membres de notre église sont au courant. Bonjour à tous. Je ne sais pas s'il est très très prudent de parler d'une nuit de rêve au lendemain justement d'un mariage comme celui-là. C'est prendre un certain risque. J'ai commencé il y a quelque temps avec Daniel chapitre 1 et Daniel chapitre 2 était la suite naturelle. Je dis tout de suite que ça ne fera pas doublon avec le sujet du week-end d'église prochain où ce sera encore Daniel qui sera abordé, mais nous nous sommes entendus avec Tom Blanchard pour ne pas nous répéter. Je vous laisse ouvrir vos Bibles dans Daniel chapitre 2, c'est le chapitre que j'aimerais qu'on aborde ensemble. Il y a quelques années, j'ai reçu à mon cabinet, je suis médecin, un patient que je ne connaissais pas, que j'ai fait rentrer dans mon bureau et à qui j'ai posé la traditionnelle question d'introduction, qu'est-ce qui vous amène, monsieur? Et cet homme s'est assis, il m'a dit, mais c'est à vous de me le dire. Je me suis dit, ça commence mal. Alors, je lui ai expliqué très gentiment que, bon, en principe, il faut qu'il me donne quelques éléments, quoi, pour aborder la question, quoi, où ça situe, quelques signes. Il dit, non, c'est vous qui êtes médecin, c'est à vous de me le dire. Je ne vais pas vous décrire la suite de la discussion qui s'est abrégée très, très vite. Et le conseil que je lui ai donné, qui était celui de s'orienter plutôt vers un psychiatre, parce que beaucoup d'autres choses dans son comportement témoignaient du fait que c'était la spécialité dont il avait le plus besoin, manifestement. Dans le récit qu'on va lire, on a quelque chose d'un petit peu analogue. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ces songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Et le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Au roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez des mois des dons, des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois, que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés, en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arioc exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Mishkaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. » À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arioc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi, « Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. » Arioc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi, « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel qu'on nommait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, au roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine, ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et elle remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Au roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer, en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Voilà ce long chapitre qui expose un des tranches de vie du prophète Daniel dont on a parlé déjà la dernière fois. Je ne ferai pas de résumé sur ce que nous avons eu l'occasion de dire, mais nous allons aborder trois points de ce... Voilà, on va mettre un petit plan pour nous aider. Voilà. Je ne commande pas apparemment. Voilà, on va y aller, ça va arriver. On va d'abord parler un petit peu de l'audace d'exiger de la part de ce dictateur. On peut être maître du monde, comme l'était ce Nebuchadnezzar, maître du monde, simplement une carte ici pour donner une image de l'envergure de son royaume, de sa domination, que l'on dit sur toute la terre, mais en tout cas tout l'espace moyen-oriental connu, habituel, dans lequel l'écriture prend place géographiquement. On peut être maître du monde et en même temps ne pas pouvoir posséder, ne pas pouvoir exiger, ne pas pouvoir acheter deux choses, la tranquillité du cœur et la connaissance de l'avenir. Et ce roi était limité dans ce domaine-là, et manifestement, il avait du mal à le supporter. Ce roi expose une sanction radicale, un peu à la mesure de son insécurité, de son arrogance également. Et je crois que l'histoire récente nous a donné à voir le spectacle d'un certain nombre de dictateurs, où qu'ils soient, du niveau de leur arrogance et de la façon dont parfois Dieu, en un instant, en quelques jours, brise leur domination. On a tous vu ça, ces statues, ces effigies, ces monuments qui témoignent de cette arrogance. Et je crois que c'est une dominante, une constante dans le monde que de cacher son insécurité derrière une arrogance et un extrémisme dans la violence, comme on le voit ici. Extrémisme dans la violence, comme extrémisme aussi dans la récompense lorsque on satisfait le caprice de son cœur. Et pour cela, donc, le Nebuchadnezzar va appeler à la rescousse une cour de sages, mais des sages totalement impuissants. Et on a déjà parlé de la dernière fois de l'ambiance dans laquelle évoluaient Daniel et ses compagnons, déportés depuis Israël dans ce royaume de Babylone, qui était pétri de sagesse, de culture, certes, mais également d'astrologie, de magie, de sorcellerie. Et il y avait toute une catégorie de personnes qu'on appelle ici les Chaldéens, qui étaient un peu les spécialistes de la chose. Et ces gens-là, donc, qui étaient des observateurs du ciel pour en tirer des présages, se basaient sur des livres qui ont été retrouvés par les fouilles archéologiques, des livres qui racontaient des songes qui ensuite étaient mis en relation avec les événements de la vie des individus qui étaient survenus, et on établissait ainsi comme une espèce d'encyclopédie d'interprétation des rêves. À partir de tel ou tel type de rêve, on pouvait prédire qu'il pouvait y arriver telle et telle chose. Et c'est la raison pour laquelle ils insistent pour connaître le contenu du rêve, ce qui paraît une évidence, bien entendu, quand on en veut l'interprétation. Une révélation que ces Chaldéens se présente d'emblée comme à contresens. Au roi, la salutation même simplement de ces Chaldéens, au roi vit éternellement, alors que la conclusion du songe est bien évidemment la fin du règne de Nebuchadnezzar. Une révélation qui d'emblée est limitée au domaine de la science des hommes. Lorsqu'ils avouent, ils font l'aveu de leur impuissance en disant « mais il n'y a que les dieux des cieux pour savoir ce que le roi demande ». Une révélation également qui est entachée par le mensonge à la base et fondamentalement. Et au verset 9, je ne sais pas si vous l'avez noté au cours de la lecture, le roi finalement, Nebuchadnezzar, leur dit « mais vous refusez de prendre la parole parce que vous vous préparez à vous mettre d'accord entre vous pour me raconter des histoires, voir un peu comment les événements vont aller en attendant que les temps soient changés, voir comment les événements vont et à ce moment-là ne me raconter que des mensonges ». Et on trouve là un petit peu les caractéristiques de la révélation dont sont friands les contemporains de notre époque, qui, vous le savez, consacrent un budget absolument phénoménal, de l'ordre du budget de la santé pour consulter voyants, devins, diseurs de bonne aventure, astrologues, lire les horoscopes. C'est un marché absolument énorme parce que ça correspond, y compris jusque dans les plus hautes sphères, ça correspond à un besoin fondamental que de trouver de l'assurance, de nous raccrocher à quelque chose dans les circonstances de la vie. Et on sait que, simplement parmi nos présidents, plusieurs étaient friands d'horoscopes, d'occultisme, de consultation de voyants, en particulier De Gaulle et Mitterrand. Et on connaît aussi Brejnev, les dignitaires qui pourtant niaient toute sphère spirituelle, qui étaient friands, et tous les dictateurs finalement se révèlent friands de cette consultation d'astrologues que la parole de Dieu interdit de façon formelle. Pour ce qui concerne Nebuchadnezzar, il y a une question ici qui se pose. Est-ce qu'il avait véritablement oublié le contenu du songe ? Qu'il n'en connaisse pas l'interprétation, d'accord, mais est-ce qu'il avait vraiment oublié le contenu ? Et comment pouvait-il avoir oublié ce contenu ? Il y a plusieurs éléments dans ce texte qui montrent que probablement, en fait, Nebuchadnezzar avait bien encore des traces de souvenirs de ce songe et que c'est une autre raison qui l'empêchait de le déclarer. La première raison, c'est qu'au verset 9, il fait de la révélation du contenu du songe un test de l'autorité, de l'authenticité de l'interprétation que les sages allaient lui donner. Et comment aurait-il pu vérifier que le contenu était conforme à son véritable rêve s'il ne le connaissait pas ? Et d'ailleurs, un peu plus loin, lorsque Daniel lui donne la révélation du contenu du rêve, eh bien il acquiesce, il dit « c'était bien ça ». Il a répondu au test. Alors qu'est-ce qui faisait que cet homme était incapable de révéler cela ? Il y a chez cet homme, je pense, l'archétype, le summum véritablement de l'orgueil humain, de la domination, du pouvoir absolu, et rêver d'une histoire de petite pierre qui renverse cette immense statue dont tout Babylone était orné. Il y avait des statues immenses. Et le chapitre 3 parlera ensuite d'une histoire de statue aussi que Nebuchadnezzar fait ériger à sa gloire. C'était proprement insupportable. Et il y a quelque chose, soit du domaine psychologique, soit tout simplement du domaine intellectuel, du domaine du refoulement, du déni chez cet homme, que de ne pas supporter cette idée qu'une petite pierre de rien du tout détachée sans l'aide d'aucune main d'homme puisse anéantir la puissance et l'immensité de la gloire où toute la toute-puissance humaine était véritablement inscrite. Et Dieu qui voulait révéler à Nebuchadnezzar quelque chose de son devenir, de son avenir très à court terme, se trouvait empêché de le lui révéler par l'orgueil de cet homme. Et on a cela en plusieurs endroits dans les Écritures. Les prophètes, Jésus-Christ lui-même, à plusieurs reprises, a dit « Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Parce que vous avez un cœur endurci, parce que vous avez le cou qui est raide, vous avez du mal à ployer l'échine devant moi, devant Dieu, à admettre que je suis Dieu, que vous n'êtes que des hommes, que ce que Dieu réclame de vous, c'est l'écoute, la soumission et l'obéissance. Il faut bien remarquer dans l'Écriture, et j'ai été frappé au cours de l'été, en lisant dans le cadre du programme du groupe de formation, le livre de Josué, que nous sommes souvent nous-mêmes les obstacles à l'œuvre de Dieu. Que ce soit l'œuvre de Dieu accomplie au travers de nous ou l'œuvre de Dieu accomplie en nous. Et c'est souvent la dureté de notre cœur, notre orgueil, notre incapacité à nous soumettre à notre Dieu qui fait que Dieu ne peut pas nous révéler véritablement ce qu'il a l'intention de nous révéler. Tellement, parfois, c'est insupportable à notre cœur endurci et encore inchangé par l'œuvre du Seigneur. Et si vraiment on veut vivre de la connaissance de Dieu, de l'œuvre que Dieu veut accomplir en nous, il y a besoin que véritablement Dieu brise cela en nous, pour que nous soyons vraiment soumis à lui et que nous ne soyons plus, nous, le principal obstacle à la révélation de Dieu dans nos vies. Il y a quelque chose à réfléchir. En ce début d'année, peut-être, où nous avons un désir, j'espère, chacun d'entre nous, de nous consacrer tout nouvellement au Seigneur et de lui demander d'agir dans nos vies. Est-ce que ma propre vie, mon propre cœur, mon caractère, mon idée de Dieu, tellement relativisée, réduite, ne sont pas l'obstacle principal à ce que Dieu me parle et travaille dans mon cœur jour après jour? Continuons avec Daniel. Arioc, qui se promène dans les rues de Babylone et qui commence à exterminer les sages, était le chef des bourreaux du roi. On l'imagine assez, armé jusqu'aux dents, et commençant à trancher des têtes dans les rues de Babylone. Et on peut imaginer la pression qui règne sur Daniel et ses amis. C'est une solution, une réponse, ou la mort. La fuite, il n'en est pas question. C'était un royaume policier, un royaume militaire, où tout était sous contrôle, pas de fuite possible. La seule alternative, une réponse ou la mort. Et quelle stratégie adopter face à la pression? La première chose, au verset 14, il nous dit que Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée. Prudence et sagesse. Il n'y a pas chez lui de précipitation. Il n'y a pas chez lui d'enthousiasme complètement délirant et inconscient. Il n'y a pas chez lui de panique, mais prudence et sagesse. Deuxième démarche, et Daniel nous a déjà habitués dans le chapitre 1er de procéder de cette façon, faire une proposition alternative à cet homme tout-puissant, à ce despote. Lui proposer un délai, lui dire « donne-nous du temps » et faire une affirmation vraiment guidée par la foi, nous allons y venir, qui est de dire « nous te donnerons une réponse ». Mais demander un délai. La troisième chose, le partage communautaire. De la même façon que nous l'avons vu dans le premier chapitre, Daniel est déporté là-bas dans le royaume de Babylone avec trois de ses frères spirituels, trois fidèles du Dieu des cieux. Et avec eux, il partage cela et il s'engage avec ses compagnons de combat dans la prière fervente au Dieu des cieux. Il y a dans ces moments où la pression repose sur nous, où nous sommes acculés au pied du mur, où nous avons l'impression qu'il n'y a plus de solution, il y a dans le partage communautaire quelque chose de rafraîchissant et un secours dont que nous ne soupçonnons parfois pas. Et il y a surtout dans la prière auprès du Dieu des cieux un secours qui ne défaille jamais. Le Dieu des cieux, c'est la première fois, semble-t-il, que dans les Écritures, cette appellation soit donnée à Dieu, tout simplement. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est du domaine de l'ambiance de Babylone, cette ville qui était pétrie d'astrologie, où on cherchait justement à lire dans les cieux. Eh bien, Daniel réaffirme en employant ce qualificatif qu'il y a un Dieu au-dessus de tout cela, au-dessus de la sagesse des astrologues, au-dessus de la sagesse de tous ces mages et devins. Et c'est à ce Dieu qui est au-dessus de tout qu'il fait recours. La foi, ensuite, cette foi tranquille qui respire vraiment la confiance en Dieu et qui est tellement en contraste avec l'agitation de Nebuchadnezzar qui a le cœur agité. Et ça me rappelle ce verset dans magnifique dans Ésaïe 41. Je pense que on doit l'encadrer dans nos Bibles pour qu'il soit notre secours dans bien des circonstances de nos vies où l'agitation, peut-être la panique nous gagne, où le prophète Ésaïe dit de la part de Dieu, ne crains rien. Ésaïe 41, verset 10, pardon, je crois que je n'ai pas cité la référence. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te tiens, soutiens de ma droite triomphante. Et Daniel, ses compagnons, respirent cette confiance en Dieu qui apaise leur âme dans les circonstances difficiles dans lesquelles ils sont, mais qui les pousse aussi à l'action, à tenter ce quitte ou double, mais dans la confiance, ce n'est pas un jeu de hasard. Ils savent que lorsque Dieu leur a révélé dans une vision le secret de la vie, du songe de Nebuchadnezzar, ils vont pouvoir se présenter avec confiance devant lui et avoir vraiment la certitude de leur salut. La reconnaissance. Immédiatement, lorsque Daniel a cette révélation du songe, son cœur éclate dans un hymne de reconnaissance que je vous proposerai de lire à la fin en conclusion, qui est un magnifique psaume véritablement à la gloire de son Dieu. Et ce matin, sans que nous soyons en quelque manière concertés avec Jean, j'étais étonné comment le choix des chants, le choix des textes, le choix de plusieurs de nos prières aussi étaient orientés dans le même sens, de glorifier ce Dieu très haut qui est au-dessus de tout et qui a la solution à toutes les situations. Et enfin, un dernier trait que je voudrais relever de Daniel, et nous pouvons là voir dans cette stratégie, dans ce portrait de l'homme de Dieu qui réagit face à la pression, voir la trame de ce que Dieu veut que nous, de la façon dont Dieu veut que nous réagissions nous-mêmes à la pression. Et nous avons tous dans nos vies des circonstances qui font que nous sommes acculés au mur parfois, que ce soit sur un plan personnel, que ce soit sur un plan collectif, nous avons des circonstances qui peuvent être de ce type-là. Et cette stratégie de Daniel, je crois, a de quoi nous inspirer. Elle est très parallèle aussi, je ne sais pas si c'est venu à votre esprit, avec le cheminement de Joseph à la cour de Pharaon. Un peu une même situation, des songes, etc., une situation critique. Il se présente devant Pharaon, il apporte l'explication que Dieu lui a communiquée. Quel témoignage du secours de Dieu dans ces circonstances est extraordinaire. Et il y a un dernier trait que je veux souligner ici, dans la bouche de Daniel. Constamment, et c'est répété à plusieurs fois, mais c'est Dieu, ce n'est pas moi. Et regardez le contraste avec simplement ce personnage qui ne fait que traverser cette histoire, Arioc, le chef des bourreaux, qui se présente devant Nebuchadnezzar, verset 25, et qui dit « J'ai trouvé parmi les sages, les captifs de Juda, un homme qui donnera l'explication au roi. » Mais il n'a rien trouvé, il n'a rien trouvé du tout, ce pauvre homme. C'est Daniel qui est venu vers lui. Et on a là un peu la réponse à la question « À qui le mérite ?» L'humain charnel répond « Mais c'est moi. » L'homme de Dieu répond « Mais c'est Dieu au travers de moi qui a œuvré. » Et ça me rappelle un peu cette mise en garde de Moïse dans le Deutéronome au moment où le peuple s'engage dans la conquête de la Palestine, du pays de Canaan qui lui est acquis de par la promesse de Dieu. Moïse qui dit au peuple « Garde-toi, Deutéronome 8, verset 17, « Garde-toi de dire en ton cœur « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. » Garde-toi de t'attribuer quelque mérite que ce soit, dans quoi que ce soit que tu réussisses dans ta vie, sur un plan intellectuel, sur un plan matériel, sur un plan affectif, sur un plan physique, quoi que ce soit. Garde-toi de dire « c'est moi », mais dis « c'est lui, tout vient de lui ». Et Daniel est un exemple ici, alors qu'il démontrait véritablement d'une façon éclatante l'étendue de sa sagesse, de sa compétence, devant tous ces sages ignorants, il dit « c'est Dieu ». c'est Dieu, c'est Dieu. Mais ce message, il faut encore avoir l'audace d'aller le proclamer devant Nebuchadnezzar. Je ne m'étendrai pas sur l'interprétation du songe, ce n'est pas le moment ici, ces royaumes qui se succèdent, etc. Et l'histoire des quelques siècles qui vont suivre vont témoigner d'un seul fait que je soulignais ici, c'est que la prophétie biblique, elle est certaine, elle est digne de foi, elle est rassurante, parce que l'histoire la confirme. Cette succession des royaumes, les royaumes des Mèdes et des Perses, le royaume grec, le royaume d'Alexandre, ensuite le royaume la domination de Rome, etc. Et cette petite pierre qui va faire exploser tout ça pour finalement donner lieu à l'instauration du royaume de Christ. Je voudrais retenir plutôt la force et l'actualité de ce message que Daniel va proclamer devant Nebuchadnezzar de la part de Dieu. La première chose, c'est qu'au-dessus de tout, il y a un Dieu. Au-dessus de tout, même des plus grands maîtres du monde, il y a un Dieu et un Dieu qui se révèle, qui révèle sa volonté, qui révèle sa volonté par des moyens parfois extraordinaires. Ici, en l'occurrence, c'est un songe, moyen totalement inhabituel. On le retrouve peu de fois dans l'Écriture. Et de ce point de vue-là, soyons très réservés vis-à-vis de ce mode de révélation. Le Seigneur nous a donné autre chose. Et Daniel, au chapitre 9, au verset 2, va le souligner en disant « C'est dans les livres que j'ai lu la suite de quantité de révélations. Dans la parole de Dieu écrite, celle qui nous a été donnée de façon extraordinaire de la part de notre Dieu. » Dieu se révèle. Livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 5, verset 2, remet cette notion de rêve à laquelle parfois certains chrétiens accordent une importance tout à fait exagérée, le remet à sa place en disant que c'est le fruit de l'agitation de nos pensées. Je vais vous lire ce verset. Les songes naissent de la multitude des occupations, ramenant les choses à leur juste mesure. Parfois, Dieu, de façon extraordinaire, a pu parler de cette façon. Mais Dieu se révèle. Dieu nous parle dans sa parole, parle à notre cœur. Si nous sommes dans les conditions d'écoute que j'ai évoquées tout à l'heure, dans une attitude d'écoute, d'humilité, d'obéissance. Le deuxième élément majeur de ce message de Daniel, c'est qu'il y a un maître à la barre de ce monde. C'est une image de Dieu qui est bien différente de celle qui est répandue parmi nos contemporains, ceux au moins qui n'affirment pas le néant, l'image du bon Dieu. Il y a un maître au-dessus de tout. Nous n'en avons pas toujours l'impression, la conviction en voyant les événements du monde. Et Daniel en fera bien l'expérience, puisque dans cette affirmation qu'il y a un maître de l'histoire, quelqu'un qui fixe les événements, qui fixe les personnages, qui fixe les temps, eh bien, il aura l'occasion de voir, quelques années après, une deuxième et une troisième déportation de son peuple, de quoi s'interroger sur la maîtrise de Dieu sur l'histoire. Mais si Dieu détermine les scénarios de l'histoire, nous ne nous étonnons pas que parfois, il nous heurte en nous disant « Mais est-ce vraiment bien Dieu qui est à la barre ?» Et il nous faut le recul, parfois de plusieurs siècles, les écrits prophétiques, leur réalisation, etc., pour nous dire « Oui, c'était Dieu qui était à la barre, même lorsque son peuple subissait les conséquences de la volonté de son Dieu. » Parce qu'il fallait qu'il passe là pour qu'il y ait un élan de repentance et de retour vers son Dieu. L'avenir est entre ses mains. Rien ne lui échappe, pas même l'avenir des plus grands despotes du monde. L'avenir est totalement entre ses mains. Un autre élément du message, le système actuel va vers sa fin et la justice de Dieu s'exercera. C'est un message qui est en ligne continue dans toute l'Écriture, que le système mis en place par les hommes, les puissances politiques, économiques, financières, les puissances militaires, tout cela est destiné à s'écrouler un jour et à ce que Dieu règle le problème de la justice. À chacun, il fasse rendre des comptes. C'est cette petite pierre, détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, qui va briser ces royaumes autoritaires et instaurer le royaume de Christ. L'histoire récente, comme je disais tout à l'heure, nous en donne témoignage. Que les plus grands despotes, ceux qui se sont érigés des fortunes sur le dos de leur peuple, peuvent être brisés en un instant et d'une façon tellement inattendue que même les meilleurs observateurs politiques ont été surpris de cette évolution. Et un des derniers éléments de ce message, c'est Christ qui aura le dernier mot de l'histoire. La petite pierre qui deviendra royaume éternel au verset 44. Le monde est secoué. Nos vies peuvent être secouées. Nous pouvons connaître des situations où nous sommes au pied du mur. Comment réagissons-nous? Est-ce que nous réagissons? Je suis sûr que chacun d'entre nous dit oui, amen à tout ce que je dis ici. On le sait, on le connaît intellectuellement. Mais est-ce que nos cœurs en sont imprégnés, comme le cœur de Daniel en était imprégné, pour qu'il puisse vivre cette situation comme il l'a vécue, avec la prudence, la sagesse, dans la prière, dans le partage communautaire et dans cette tranquille assurance de la foi? Il y a un pas entre ce que nous connaissons de Dieu, ce dont il est capable, ce que la parole nous révèle et ce que nous vivons vraiment au fond de nous-mêmes. Au début du culte, tout à l'heure, nous avions sur le premier banc assis 8 garçons qui avaient à peu près 200 de tension. Peut-être entendu jusqu'au dernier banc au fond. Ils étaient occupés, les 8 places de ces bancs. Et il y a une petite fille, blondinette, mignonne comme tout, avec un grand sourire, qui est venue à côté d'eux et qui a touché l'épaule de l'un de ces garçons pour réclamer simplement une petite place sur ce banc où il y avait encore de la place. Le petit garçon, pas bougé d'un pouce. Il a fallu qu'on le pousse un peu pour qu'il fasse de la place. Et tout doucement, il s'est éloigné, jusqu'à laisser 40 cm être collé aux 7 autres au bout du banc. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'illustratif de notre attitude vis-à-vis de la révélation et de la présence de notre Dieu dans nos vies? Il vient et on a du mal à lui faire de la place. Et quand on lui fait de la place, on maintient une distance respectable pour que la révélation de Dieu ne vienne pas bouleverser nos vies véritablement, ne vienne pas impliquer des changements dans nos attitudes, dans nos convictions, dans nos modes de vie. Est-ce que nous ne sommes pas un petit peu comme ça? Est-ce que nous faisons à Dieu, c'est une question que je nous pose à tous en ce début d'année, est-ce que nous faisons à Dieu la place qu'il mérite dans nos vies pour que véritablement nous puissions être des serviteurs de Dieu comme l'était ce Daniel, jusque à la face du monde même, que nous puissions être témoins de cette grandeur de notre Dieu, de cette immense sagesse, de sa domination sur toute chose, et être dans cette attitude d'humilité, non pas d'arrogance, que parfois certains chrétiens manifestent, mais cette attitude d'humilité qui nous fait dire « Mais c'est Dieu, cela vient de lui, simplement. » J'aimerais que nous puissions lire ce texte du psaume 42, verset 6, cette interrogation de David, « Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu. Aussi, c'est à toi que je pense. » Dans nos moments difficiles, peut-être que nous connaissons maintenant ou que nous connaîtrons demain, que cela puisse être notre consolation et que nous puissions proclamer, comme Daniel, je vais relire ces quelques versets, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. » À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps, les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, Je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Que ça puisse être vraiment notre prière, cette prière d'une foi consciente, conséquente, confiante dans le Seigneur pendant toute cette année. Je vous invite à ce que, éventuellement, nous rechantions un chant que nous avons chanté en introduction à ce moment de culte. C'était le deuxième chant, je crois, le 150. Non, oui, c'est ça. Attendez, juste une chose. Ou le 79. Ou j'ai pas eu le temps de le noter. Voilà, le 79. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi. Tu es le seul Dieu. Dieu de gloire. Tu es roi. Que ça puisse être une réalité dans nos propres vies, d'abord et avant tout, et avant que ça le soit également au sein des royaumes de ce monde. Amen. On peut se lever, si vous voulez, pour chanter ce chant avec conviction.